Eh bien, merci aussi également. Nausiquette avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ça
Ça va très
va?
bien, merci.
Super. Écoute, merci pour ce documentaire. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est le dispositif Ulysse avant de rentrer un petit peu plus dans le détail
Oui, alors dispositif ULIS, donc c'est ULIS, ça veut
Ouais.
dire Unité locale d'inclusion en milieu scolaire. Et c'est un dispositif de l'éducation nationale pour scolariser des enfants en situation de handicap au sein du milieu ordinaire. Donc ça existe en gros du niveau maternel au niveau lycée. Et donc moi là je connais surtout, enfin j'ai pu intervenir du coup avec le documentaire au niveau élémentaire. Et donc au niveau élémentaire, ça se traduit par une classe déjà de 12 élèves qui sont du coup inclus au sein du dispositif ULIS, qui sont de temps en temps inclus par l'enseignante dans d'autres classes de niveau quand ils et elles sont estimés capables d'y aller. Donc un élève par exemple peut aller tous les matins en maths en CE1, un autre peut aller en anglais et en français avec des CM2 deux fois par semaine. Enfin, c'est très variable et c'est des parcours très individualisés.
Et à partir du moment où un enfant est accepté dans le dispositif ULIS, il conserve sa place durant toute l'année scolaire, ou chaque année, il faut... Ouais, ok.
Oui, toute l'année scolaire. Il y a des renouvellements à faire, des renouvellements de demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Alors, je crois que c'est tous les 2 ou 3 ans, ça, je ne me rappelle plus trop techniquement comment ça se fait. Et les élèves peuvent aussi inclure le dispositif en milieu d'année. Voilà. Mais
Et
les
là...
élèves peuvent aussi sortir du dispositif ULIS. Voilà.
Ok.
Si on
Et
veut
c'est à
donner.
la demande des parents ou des enseignants-enseignantes?
Oui, c'est une initiative des parents.
Ok.
Après, parfois accompagnés par les enseignants et enseignantes qui voient qu'au sein d'une classe ordinaire, c'est trop compliqué pour les élèves de suivre. Du coup, ils accompagnent, enfin les enseignantes accompagnent les parents dans tout le processus de reconnaissance du handicap pour que les élèves puissent intégrer une classe, un dispositif ULIS ou alors un autre dispositif. C'est pas l'unique dispositif qui existe au sein de l'éducation nationale pour les enfants en situation de handicap. Voilà.
Et pourquoi tu as choisi ce sujet?
Alors, il est un peu venu vers moi. C'est l'enseignante coordinatrice du dispositif ULIS qu'on entend dans le documentaire, Anne Fouché, qui à la tout, enfin, au tout début est venue vers moi en me disant que, bon, déjà c'est quelqu'un qui était très attaché au monde de la radio et qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait sur le dispositif ULIS et que elle, en tant qu'enseignante, bah, elle aimerait bien avoir un peu un outil de sensibilisation pour les parents. Donc elle me dit ça, moi je dis que je connais pas du tout le sujet, donc en fait on est parti d'abord sur un processus d'atelier au sein de l'école, moi j'aime bien faire comme ça, et pour que je puisse au moins rencontrer le sujet, les élèves, pour voir s'il y avait des thématiques qui m'intéressaient, si j'arrivais à soulever des questions et que ça m'intéressait de partir dans ce processus documentaire. Et du coup j'ai rencontré les élèves, c'était en février 2021. Et donc voilà pour des ateliers, donc on a fait de la radio ensemble. Et tout de suite, du coup, j'ai vu que c'était une classe quand même assez particulière. Et ce qui m'a intéressé, ça a été déjà toutes les émotions qu'il y avait dans cette classe et que moi j'avais pas eu dans ma scolarité du coup ordinaire quand j'étais enfant. Et toutes ces émotions qui pouvaient sortir, le fait que leur parcours était très individualisé, qu'ils avaient beaucoup d'écoute au sein de la classe. Et je me suis dit, waouh, là, je suis dans une éducation nationale qui me plaît bien, je crois. Et j'avais envie de creuser ça, de voir pourquoi c'était différent dans cette classe-là par rapport à d'autres. Et aussi, du coup, dans le cadre des ateliers radio, j'ai fait l'expérience des inclusions, du coup, de ces élèves du dispositif ULIS dans notre classe, parce que, du coup, j'ai fait des ateliers aussi dans des niveaux de CE1, de CM1, de CM2. Il y avait des élèves dispositif ULIS à l'intérieur. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai vu que les liens entre les autres élèves étaient parfois compliqués, que le regard des autres élèves sur ces élèves-là, était parfois un peu problématique. Et je me suis demandé, en fait, dans quel cadre se faisait cette inclusion, parce que je trouvais que les choses n'étaient pas vraiment expliquées, que c'était... Enfin, voilà. Du coup, je suis partie, j'ai dit à Anne, OK, je me lance dans un documentaire. Par contre, ça va pas être qu'un documentaire explicatif, moi ça m'intéresse pas trop, j'ai envie qu'on pose des questions et d'aller un peu dans fouiller ce qu'il peut y avoir de problématique là-dedans et essayer de l'expliquer quoi. Voilà. Donc elle m'a donné son feu vert et c'est pour ça que je suis partie sur ce sujet. Voilà.
Donc la premières pages à écrire, ça a été la rencontre avec les enfants.
Oui.
Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de documentaire sur les enfants en excluant les enfants, donc il a bien fallu les prendre en compte. Comment tu as pu obtenir leur confiance? C'est par le biais de ces ateliers, d'être là tous les jours?
Oui, alors bah, ça a commencé par ces ateliers. Donc moi, je suis restée 2 mois à l'école. Au début, un premier mois où je n'enregistrais pas en dehors des ateliers radio. Donc ça a été un mois qui a permis aussi de faire comprendre aux élèves ce que c'était la
Voilà,
radio.
un peu la mécanique.
Voilà, et puis aussi d'apprendre à s'exprimer dans un micro et à comprendre l'enjeu d'être écouté. Parce que du coup, les émissions ont été diffusées en direct et les parents ont pu écouter. Et du coup, il y avait aussi cette compréhension qui était importante pour moi de ce que c'était que parler en public et d'avoir sa parole qui était entendue et d'avoir un peu ce micro aussi comme moyen d'expression. Donc, c'était une première approche. Et ensuite, en fait, moi, enfin, j'ai commencé à venir très souvent à l'école, j'ai commencé à enregistrer. Les élèves avaient, je crois, assez vite compris quelle était mon intention parce que je leur posais des questions sur eux, sur leurs sentiments à l'école, sur leur rythme. Voilà, je les accompagnais un peu d'une classe à l'autre. Et puis en fait, j'ai vraiment commencé à faire partie du paysage et j'étais vraiment beaucoup, enfin très accompagnée par l'enseignante coordinatrice qui commençait à me dire un peu en off que les élèves m'attendaient, qu'ils étaient contents que je m'intéresse à eux et que j'étais devenue quelqu'un d'important dans la classe parce que ce sont des élèves qui manquent souvent d'attention dans leur vie et de par leurs problématiques aussi familiales qu'ils et elles peuvent avoir et sociales aussi, enfin de regard porté par les autres élèves. Du coup, avoir quelqu'un en plus dans la classe qui est là rien que pour eux, c'était quelque chose d'important. Du coup, ça a été finalement assez facile parce qu'ils appelaient le micro et eux-mêmes voulaient le prendre. Et quand du coup j'ai commencé à faire des interviews du coup avec l'accord des parents et de l'enseignante au sein de la classe avec chacun et chacune d'entre eux, ils étaient contents de ce temps parce que je leur posais des questions sur eux et qu'ils voyaient qu'ils étaient au cœur de mon travail. Voilà.
Ouais, donc ça a semblé naturel au bout d'un moment en fait. Et simplement, ils ont entendu le résultat final? Qu'est-ce qu'ils
Oui.
en ont pensé?
Tout à fait. Alors, il y a eu une diffusion, parce que le documentaire est sorti en juin dernier, il y a eu 3 diffusions publiques, et donc dont une qui était un matin à 9 h avec toute l'école devant le gymnase. Donc, on a mis tous les tapis de sport dehors. Et du coup, c'était assez impressionnant, même pour moi, parce que je me demandais comment les élèves, enfin tous les élèves, hein, allaient recevoir ce documentaire d'1 heure. C'est quand même un peu fastidieux d'écouter un son pendant 1 heure. Et comment les élèves de l'ULIS allaient s'écouter, ce qu'ils allaient penser. Et j'ai pas trop eu l'occasion de discuter avec eux à la fin, mais j'ai compris qu'ils avaient été gênés de s'entendre, comme beaucoup de gens quand ils s'entendent à la radio, mais qu'ils avaient été contents d'être les personnages principaux de ce moment d'école et d'écoute collective, et qu'au final, ils étaient. Je sais pas s'ils ont compris tout le documentaire parce que il y a quand même beaucoup de voix d'adultes, beaucoup de jargon au bout d'un moment. Donc je pense qu'ils étaient contents de s'entendre évoluer dans leur classe et de retrouver des moments un peu comme leur histoire, quoi. Donc du coup de l'année passée, parce que le documentaire a mis 1 an à sortir après la fin du tournage. Et du coup ça leur rappelait aussi des souvenirs et ça leur permettait aussi d'entendre les regards des gens qui les accompagnent au quotidien.
Ouais, c'est un véritable prolongement de cette histoire. Et tu as utilisé un moment le mot d'intention. Je voulais savoir si en débutant cette aventure, tu avais une intention ou alors elle s'est dessinée petit à petit par la rencontre, par la connaissance aussi du dossier, les interactions entre les professionnels.
Oui, alors oui, au début j'avais une intention. Enfin, déjà j'avais une demande de la part de l'enseignante. C'est quand même un contexte un peu particulier de production, enfin de réalisation. Il y avait cet enjeu d'expliquer le dispositif, qui déjà je trouvais pas évident parce qu'il est assez complexe. Enfin, la vie de ces enfants est complexe. Ils ont un emploi du temps très chargé. Du coup, il y avait l'enjeu d'expliquer ça. Tout en respectant aussi ce que j'aime faire dans le documentaire, c'est-à-dire avoir un côté un peu immersif, être dans la classe et laisser les gens s'exprimer dans leur vie quotidienne, voilà, dans des situations. Du coup, il y avait cet enjeu explicatif et il y avait l'enjeu aussi de poser les questions que moi je me posais en tant que réalisatrice et nouvelle personne au sein de ce dispositif et de faire transparaître ces questions. Mais au début, je ne voulais utiliser que la voix des enfants. Je voulais que tout vienne d'eux et que ce soit un documentaire avec des situations, des interviews d'enfants, peut-être des parents, mais j'avais envie de n'avoir que leur point de vue. Et ensuite, comme tu dis, ben, les intentions ont complètement évolué parce que j'ai gardé cette idée de la parole d'enfant un peu au centre du documentaire. Mais je me suis dit, en fait, cette question de l'inclusion, c'est important de l'aborder par le prisme de comment est véhiculée l'idée et la thématique du handicap au sein de l'école, comment on en parle aux autres enfants, est-ce que ces enfants sont vraiment inclus et comment, en fait, est-ce qu'on explique leur handicap aux autres élèves. J'ai très rapidement vu qu'il y avait un manque de moyens énorme associé au dispositif, notamment avec des enfants qui attendent parfois 2 ans un rendez-vous avec un ou une psychologue pour l'accompagner à l'école, avec des listes d'attente énormes pour intégrer le dispositif Ulysse, parce qu'il y en a quand même très peu, en tout cas en Charente, il y en a vraiment peu. Et du coup, je me suis dit, tout ça, c'est important de l'aborder, parce que ça concerne la vie de ces enfants. Par contre, ce ne sont pas ces enfants qui peuvent aborder ces questions-là. Et du coup, j'ai commencé à interviewer tous les adultes qui gravitaient autour de ces enfants, avec 2 prismes. Le premier, ça a été... qu'est-ce que vous pensez de cette inclusion, où on en est des moyens associés, et aussi le prisme de quel est votre regard, vous, sur le handicap, c'est quoi pour vous, et comment est-ce que vous expliquez aux autres élèves de l'école et aux élèves du dispositif Ulysse ce que c'est que le handicap. Et ça me permettait aussi d'avoir un regard plus large sur la société, en fait, parce que ce qu'on dit aux enfants, c'est aussi ce qui est dit après dans la société. Et voilà, donc j'avais envie un peu de généraliser le discours de l'école à la société en interviewant les adultes. Voilà.
Ça permet aussi évidemment de complexifier le propos.
Oui, c'est ça. Et après, je trouve pas que ce soit un documentaire très critique ou très militant, mais j'avais envie, en fait, mon intention, c'était de donner à voir et à entendre, du coup, en l'occurrence, où on en était du discours autour du handicap, comment on parlait de ça et comment, du coup, pouvaient le vivre les élèves qui étaient inclus dans ces dispositifs-là.
Voilà. Non, mais c'est vrai que ça apparaît par petites touches, en fait. Progressivement, il y a des thématiques qui émergent sur la souffrance, la violence à l'école. Et effectivement, ça passe aussi par... Les adultes, la voix des adultes qui sont aussi perdus, soit dans les problèmes administratifs, dans la réalité quotidienne de l'école. Donc c'est un équilibre qui fait que, voilà, mais on passe de l'univers des enfants à l'univers des adultes. Ça représente une année, c'est ça, à peu près
C'est une demi-année.
Ouais, une demi-année, ouais, jusqu'à aux vacances scolaires. Donc tu parlais un moment de jargon, donc du vocabulaire. Et on comprend que le vocabulaire, il est fondamental parce qu'il est symbolique d'un imaginaire et d'une réalité, que les mots peuvent enfermer. Et je voulais savoir si tu avais réfléchi aux termes que tu souhaitais utiliser pour présenter les enfants. À un moment, tu parles d'un petit garçon qui s'appelle Quentin et tu dis que dans la vie, il est un peu stressé. Ça laisse à imaginer, en fait. Et j'ai l'impression que tu as souhaité aussi trouver la juste distance par rapport pour présenter ces enfants.
Oui, du coup, tu cites un passage qui est au tout début du documentaire, et j'avais envie de faire entrer les auditeurs et les auditrices dans la classe comme moi j'étais entrée, c'est-à-dire sans connaître vraiment les élèves, sans savoir pourquoi ils étaient dans cette classe du dispositif Ulysse. Et au fil du temps, j'ai commencé à voir, que Quentin, il avait une chaise un peu particulière, qui avait des accoudoirs, qui lui permettait de se contenir un petit peu, d'être entouré, et que c'était dû à un stress un peu quotidien. En fait, j'ai voulu essayer d'expliquer dans le quotidien ce que ça pouvait signifier que d'avoir, si on parle de jargon plus médical, spécialisé, je sais pas comment dire, on parlerait peut-être de troubles autistiques, de troubles du comportement, Mais là, j'avais envie un peu de le rendre concret dans des faits et dans des choses qu'on pouvait percevoir de l'extérieur, pour aussi voir comment les autres élèves et les autres adultes pouvaient percevoir ces élèves-là. C'est pour ça que je fais aussi apparaître la colère à un moment des élèves et leur énervement au sein de la classe, parce que c'est quelque chose qui est perceptible. Donc pour moi, c'était important de l'expliquer par du réel, par du concret, et aussi parce que elles et eux ne se définissent pas forcément comme handicapés.
On reste à hauteur des enfants, en fait.
C'est ça, c'est un peu ce que j'essayais de faire. Et puis je savais que le documentaire allait être écouté par des enfants et j'avais pas envie de les définir autrement comme ils et elles se percevaient. Moi, je les percevais pas autrement. Après, au sein du documentaire, c'était quand même vraiment important pour moi de parler de handicap. Parce que pour moi, c'est au cœur de la thématique de l'inclusion et le jargon est hyper important. Et c'est aussi un mot qui est dans le domaine... parce que du coup, j'ai été pas mal accompagnée par la suite par une chercheuse dans le domaine du handicap qui s'appelle Justine Madio et qui m'expliquait que dans le militantisme handi, c'était important de dire que le handicap existait parce que c'était celui qui était créé par la société et que c'était pas quelque chose qui caractérisait les gens de manière... c'était pas par nature, le handicap, c'est pas la nature d'une personne, c'est ce qui est créé par la société. Et donc, du coup, quand on parle de l'inclusion d'enfants en situation de handicap à l'école, il faut employer le mot handicap parce qu'on parle du système de l'éducation nationale, du système de la société qui inclut ou exclut des enfants qui ont certaines caractéristiques qui sont considérées comme étant hors normes, quoi.
Ouais, c'est la définition du regard extérieur, en fait. Alors que quand toi, tu demandes aux enfants réellement pour toi, c'est quoi le handicap ? Ils ont évidemment une autre vision de ce qui les désigne.
Oui, voilà. Enfin, j'ai l'impression, en discutant toujours avec Justine, qui a été interpellée par la définition que les enfants avaient eux-mêmes du handicap. En fait, on se disait, ces enfants ont intégré aussi ce que les adultes pensent du handicap et ce que la société en pense. À un moment dans le documentaire, il y a deux petits garçons qui parlent, Brian et Ziad, et Ziad commence à dire que le handicap, c'est quand on a des difficultés à l'école, parce qu'en fait c'est pour ça qu'ils sont dans cette classe. On leur a expliqué ça comme ça, c'est parce que ils n'arrivent pas trop à lire, pas trop à écrire comme les autres, du coup ils sont dans cette classe et voilà. Et après Zia dit à Brian, mais toi aussi tu t'es handicapé, et Brian refuse ce terme et dit non, tu connais pas ma famille, moi je suis pas handicapé, parce qu'il a intégré le stigmate de la société et qu'il veut pas être là-dedans, et que la société utilise encore le terme handicap comme quelque chose qui définit la différence des gens et pas comme quelque chose qui viendrait de la société qui, par un manque de moyens associés à des dispositifs d'inclusion, exclurait toujours des personnes. Voilà.
Oui, c'est vrai que la gêne, la plupart du temps, vient plus des gens non concernés, quoi.
Pardon ?
Je dirais que la gêne vient la plupart du temps des personnes non concernées, qui n'osent pas utiliser les bons termes, qui parlent de différence...
Oui, voilà. Et du coup, tout ça, ça participe à essentialiser un stigmate qui, en fait, vient de la société. C'est comme si le fait que les personnes étaient exclues, c'était à cause de la différence qu'ils ou elles auraient. Et voilà, c'est comme, à un moment donné, une enseignante parle de souffrance. Parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas employer le terme handicap. Mais en fait, ce terme de souffrance, il est terrible parce que c'est poser un stéréotype sur du coup des déficiences qu'ont ces personnes, et en fait c'est pas les déficiences qui créent la souffrance, c'est potentiellement l'exclusion que la société fait de ces personnes qui peut créer la souffrance, mais en fait avoir un trouble un trouble autistique n'est pas en soi une souffrance.
Tu parles de la loi de 2005 qui va différencier l'intégration, je simplifie, mais donc l'intégration à l'inclusion.
Oui. Alors ça, c'est une loi qui a été très importante. L'idée, en fait, c'est de dire que c'est pas à l'enfant de faire l'effort de s'inclure à la société et d'être inclus, et de pas lui faire porter cette responsabilité-là, mais de dire que c'est à la société de mettre assez de moyens pour inclure les enfants dans toute leur diversité. Et voilà, donc c'est plutôt un changement de regard porté sur la présence de ces enfants à l'école, en disant c'est pas à eux de faire l'effort, c'est à l'éducation nationale, au système scolaire, de s'adapter et d'individualiser les parcours. Voilà.
Et donc là, c'est dans... s'il y a et des moyens en personne et en financement, je suppose.
Voilà, donc après, il y a des dispositifs qui sont associés à ce jargon-là et à cette différence de vocabulaire. L'idée, c'est que les enfants soient accompagnés de près et quand ils en ont besoin par des personnels, genre des éducateuristes, des psychomotriciens, psychomotriciennes, psychologues, et aussi, donc ça c'est un peu l'idée du dispositif ULIS, donc avoir des moyens en termes de soins, comme je l'ai dit, il en manque énormément, et à côté de ça, puissent avoir les moyens de voir leur parcours individualisé, ce qui est assez compliqué en fait, parce que l'enseignante elle est toute seule avec 12 élèves, plus un AESH, c'est vraiment, c'est très juste quand même, mais c'est l'idée d'avoir quand même une petite classe, un petit groupe. Et après, l'idée de l'inclusion, c'est d'inclure ces élèves à d'autres classes de niveau, quand ils et elles le peuvent, et aussi de les inclure à des sorties scolaires, aux projets de l'école, normalement aussi au moment de récréation et de temps périscolaire, ou après avec les temps avec les conditions sanitaires qui étaient à l'œuvre au moment du tournage, bon, ça a été à nouveau séparé, ce qui était dommage dans la thématique de l'inclusion. J'en parle pas dans le documentaire, mais c'est vrai que ces élèves-là ont été les premiers touchés par toutes les conditions sanitaires qui ont été imposées, parce que par exemple, alors que les moments de récréation sont des moments importants où ils pouvaient interagir avec les autres élèves, là ils étaient entourés de rubalises et ils devaient rester entre eux 12. Donc c'est vrai qu'on se posait la question d'autant plus de l'inclusion quand il s'agissait de ces conditions sanitaires-là, et les inclusions dans les autres classes ont été remises en question. Donc l'enseignante s'est battue pour que les élèves puissent continuer à être inclus dans d'autres classes durant l'année, mais ça a été remis en cause par les conditions sanitaires. Là, je ne juge pas les conditions sanitaires, mais c'est vrai que ces enfants étaient particulièrement touchés par ça, de par la nature de ce dispositif-là. Voilà.
Et pour aborder un petit peu aussi l'aspect technique, tu évoquais la force de la radio, l'attrait de la radio et les contraintes aussi de la radio, puisqu'il va falloir rendre un imaginaire de situation visuelle uniquement avec l'utilisation donc du son, des voix. À un moment donné, il y a un ASH qui explique qu'un enfant a un retard au niveau psychologique et qu'il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil. Donc justement, comment arriver à transmettre par le son ce qu'on ne voit pas à l'œil et à quelles difficultés tu t'es confronté ?
Alors, c'est une très bonne question. En interviewant des gens sur les sujets, en général, je crois que c'est ce que je fais, c'est quand des choses ne sont pas audibles, c'est de les expliquer, de les raconter. C'était aussi l'idée des questions que je pose aux élèves et aux enfants. Qu'est-ce que c'est que le handicap pour toi? Comment toi tu vis l'école? Pour qu'ils mettent des mots aussi là-dessus, sur des choses que je n'avais pas forcément pu enregistrer. Après, j'ai essayé de montrer ce que ça pouvait signifier dans leur quotidien par certains enregistrements, notamment dans le début du documentaire, il y a une élève, Nour, qui n'arrive pas à comprendre la question que l'enseignante lui pose, qui lui répète, et Nour ne comprend pas, n'entend pas. Et à un moment donné, l'enseignante dit, mais en fait, je comprends pas, je sais pas si elle n'entend pas ou si elle ne comprend pas. Voilà. Et du coup, c'était une des manières aussi d'essayer de dire des choses. Voilà, ces situations un peu longues. Moi, j'aimais bien laisser mon micro ouvert très longtemps pour essayer de capter ces temps-là où on pouvait peut-être, où je me disais qu'on pouvait percevoir que là, il y avait une difficulté peut-être particulière qu'on pouvait attribuer à un enfant et qu'on pouvait du coup expliquer sa présence dans une classe. Mais après, j'ai essayé du coup de faire parler ces enfants et comme Mohamed, l'AESH, les personnes qui les accompagnent au quotidien sur ces sujets du coup qui étaient difficilement transmissibles juste par le son, quoi.
Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce moment hyper fort, intense, sur l'incommunicabilité, quoi, c'est-à-dire l'incompréhension. On imagine, on visualise cette enseignante totalement démunie, qui essaye de comprendre. Elle essaye d'être le trait d'union, et elle est perplexe. Et malgré tout, le son a cette force de transmettre aussi des émotions, puisque là, ça joue sur... on est avec cette enseignante, en fait, à ce moment-là, quoi.
Oui, tout à fait. Et il y a eu d'autres moments, enfin, je ne sais pas, mais quand tu parles de ça, du coup, je pense aux agentes d'entretien et de cantine que j'ai interviewées en groupe à un moment. Et pour le coup, ça, c'est juste le fait que moi, je n'ai pas assisté à des scènes où il y aurait pu avoir des interactions entre des agentes de l'école, donc à la cantine par exemple, et des élèves qui auraient pu être significatifs pour le documentaire. En fait, la plupart des choses que j'ai tournées étaient très relevées vraiment de l'école un peu classique, quoi. Enfin, il n'y avait rien de particulier à en dire. C'était une école, mais du coup, moi, dans ce que j'ai pu percevoir, entendre, enregistrer, il n'y avait rien qui permettait de documenter ce que c'était que le dispositif Ulysse, à part des moments de cantine que je mets, parce que c'est vrai, en fait, ce sont des enfants comme d'autres enfants, enfin ça, faut pas l'oublier. Mais à côté de ça, l'interview montre que bah, les agentes disent elles-mêmes qu'elles sont parfois très démunies, qu'elles ne savent pas comment réagir à certains comportements, qu'elles n'ont jamais été formées, qu'on ne leur a jamais expliqué avec quelles particularités ces enfants arrivaient à l'école, quelles pouvaient être leurs difficultés à l'école. Et ça, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça fort qu'elles arrivent à formuler ça dans cette interview de groupe où elles disaient, en fait, on a besoin d'explications, on a besoin de formation, parce que parfois, on fait n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas agir. Et donc, parfois, je trouve que l'interview est quand même un très bon moyen pour que les gens puissent dire ce qu'ils et elles ont à dire sur des sujets qui les concernent directement, quoi. Voilà.
Non, c'est vrai que le documentaire est fort sur ces moments en fait qui débordent sur le cadre en fait, puisqu'on part d'une situation, comme tu dis, banale, classique et répétée pour l'ouvrir à quelque chose de plus profond comme interrogation. Et d'ailleurs, justement, je vais savoir si tu avais travaillé sur cette notion de durée de répétition, parce que voilà, avec le temps, on oublie en fait, et aussi par la succession des journées, puisqu'on est à l'école, donc il y a les activités, et on oublie en fait progressivement. Voilà la différence entre guillemets de ces enfants, puisqu'au bout d'un moment on a le sentiment de les connaître à force de les entendre, on est avec eux, donc ils font partie un petit peu de notre environnement direct.
Bah oui, bah c'était. Du coup, je suis contente si jamais t'as pu percevoir ça, parce que c'était un peu l'idée, c'était de dire qu'en fait, moi, quand je suis rentrée dans la classe, je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi la différence? Enfin, vraiment, je ne voyais pas trop, et c'est des enfants qui sont à l'école, qui ont un enseignement et qui sont certes dans un dispositif un peu à part, mais il faut pas oublier que en fait ils peuvent s'adapter très vite à ce qu'on leur propose, et ça c'est pas étonnant ce que je dis, enfin, c'est juste normal, et que en associant encore plus de moyens, en fait ils pourraient être encore mieux à l'école parce qu'on pourrait encore plus adapter leur scolarité. Et du coup oui, bah, le fait que j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup enregistré, je crois que j'avais
Ouais,
60 heures
j'imagine, ouais.
d'enregistrement.
Ouais, 60 heures de rush.
Ouais, j'avais 60 heures d'enregistrement, et du coup, c'est vrai que bah, au milieu de ça, j'ai capté certaines scènes qui me semblaient pouvoir révéler une certaine particularité du dispositif Ulysse, avec, comme je disais au début de l'interview, beaucoup d'émotions dans la classe parfois qu'on ne sait plus gérer parce que ça explose, et voilà, avec aussi des accompagnements très individualisés dans la scolarité, avec des enseignants vraiment près des élèves. Voilà, donc ça, c'était pour moi assez particulier. Et après, je voulais aussi les montrer dans l'inclusion dans d'autres classes avec quelque chose que je trouvais plus distant, avec le bonjour à l'élève que les élèves font quand il arrive, pour montrer un peu cette spécificité et le fait qu'en fait, même s'il est inclus, c'est quand même un élève différent qui arrive dans la classe. Enfin, faut pas se leurrer, c'est pas comme un camarade de classe de tous les jours. Et en fait, petit à petit, j'ai eu envie de déconstruire. Bon, c'est un peu fort ce que je veux dire, et peut-être trop fort, mais déconstruire cette belle idée de l'inclusion. Dire c'est pas parce qu'on fait des choses et qu'on dit qu'on les fait qu'elles sont bien faites. En fait, il faut les accompagner d'une sensibilisation, de moyens, sinon ça peut amener vraiment à une violence. Et c'est ça que j'essayais d'amener en fait dans la durée. C'est pour ça qu'il dure 1 heure, je pense. C'est qu'au début, il y a tout ce temps d'installation, et après, il y a ces temps que j'ai voulu être un petit peu plus questionnant sur ce qu'était le dispositif.
Ouais, clairement, et ça fonctionne parce que voilà, c'est une transition avec l'écosystème qui est l'école. Et j'ai le sentiment en écoutant que enfin, moi, perso, progressivement, ça pose le cadre de l'école comme modèle d'éducation. Mais je sais pas, ça s'effrite puisque tu parles aussi de violence, de souffrance. Et à un moment, quelqu'un parle de compétences sociales, par exemple, capacité au travail. Et donc, ça m'a ramené à l'idée que l'école doit proposer uniquement une ouverture vers le monde du travail et l'acceptation du monde du travail.
Oui, bah oui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis tous ces propos-là, qui étaient quand même très présents chez les adultes qui accompagnent les élèves. Pour moi, j'étais choquée de retrouver cet espace tellement normatif de l'école. Et du coup, ça m'a posé plein de questions sur, en fait, oui, inclure à l'école des enfants. Mais pour leur proposer quoi? Pour leur proposer quel modèle? Est-ce que c'est pas essayer de, encore une fois, de normaliser, je mets des guillemets, des enfants qui voudraient aller vers d'autres choses? Enfin, oui, ça m'a posé énormément de questions et du coup, j'ai voulu poser dans le documentaire, mais de manière pas frontale, hein, c'est à travers tous les propos dont tu décris, mais cette idée de la norme et de l'école qui impose un cadre en fait dans lequel il faut rentrer et c'est très dur d'en sortir et les élèves du dispositif qui en sortent trop mais en fait ne peuvent pas rester dans le dispositif. Il y a certains élèves qui par leur du coup je mets des guillemets problème de comportement sont partis après leur dernière année de lycée en IME en institut médico-éducatif parce que du coup en termes de comportement c'était pas acceptable au sein de l'école d'avoir ça, mais parce qu'encore une fois on parle de manque de moyens, de manque d'individualisation, de problèmes de nombre de personnel au sein de l'école pour accompagner de près les élèves et leur procurer peut-être l'attention qu'ils ont parfois besoin. Mais oui, cette question en fait du handicap, c'est la question de la norme et le fait d'en faire sortir des, ben, en l'occurrence des enfants, mais plus tard des adultes. Mais ça parle d'une norme qui est quelque chose qui est caractérisé socialement. C'est intrinsèque à personne. C'est vraiment une construction sociale. Et d'ailleurs, on l'entend au début du documentaire avec la psychologue qui dit, parfois, les élèves n'ont pas de déficience. C'est juste que l'école n'est pas capable de les accompagner suffisamment. Du coup, on les fait passer par le processus de reconnaissance du handicap pour pouvoir associer des moyens à leur scolarisation et individualiser leur parcours. Moi, je trouve ça assez significatif sur le fait que le handicap, c'est clairement une construction de la société pour servir ses intérêts et les moyens qu'elle a à un moment donné. Donc, en fait, je trouve ça extrêmement violent de caractériser des gens par rapport à un état un peu social. Enfin, voilà.
Mais alors, par exemple, voilà, ce documentaire, il va vivre, peut-être que tu vas intervenir, l'expliquer, mais est-ce que tu penses que tout le monde va en tirer les mêmes conclusions?
Non, je crois pas, et c'est un peu l'inquiétude que j'ai parfois. C'est pour tout dire, c'est que du coup, quand je peux, je trouve que ce documentaire, il a ce défaut que, en fait, il a été assez compliqué à monter parce qu'il y avait cet enjeu. Du coup, c'est Raphaël Raffort qui est documentariste et monteuse qui a réalisé le montage à mes côtés. Et enfin, en tout cas, j'étais à ses côtés plutôt quand elle montait. Et c'est vrai qu'on avait cet enjeu un peu compliqué d'à la fois expliquer le dispositif Ulysse et de dire que finalement, cette classe, est-ce que ce serait pas un modèle pour l'école? Donc, du coup, de bien l'expliquer et de dire que, en fait, c'était super d'individualiser des parcours et que ces enfants, ils se sentaient bien dans cette classe à 12 élèves où on avait une attention spécifique sur eux. Mais à côté de ça, il y avait toute la critique à en faire et je voulais pas que ce soit frontal parce que je savais que ça allait être un outil aussi pour l'éducation nationale et que, enfin, potentiellement, et que il fallait un peu. Moi, j'avais envie que les gens se fassent leur propre idée des propos qui étaient tenus dans le documentaire. Donc, en fait, certaines personnes vont en ressortir complètement en disant ah mais en fait c'est super ce dispositif et sans forcément capter les problématiques qu'il y a autour. Après je sais que pour l'avoir diffusé du coup à toutes les enseignantes de l'école, elles ont dit ah mais en fait c'est un problème qu'on n'ait pas le même discours sur handicap, qu'on sache pas comment en parler, qu'il n'y ait pas de formation. Donc j'ai l'impression que les gens qui peuvent peut-être toucher un peu aux questions posées dans le documentaire peuvent être amenés à se poser des questions. Et peut-être à avancer, à avoir envie de creuser la question du manque de moyens, du discours associé à l'inclusion. Mais voilà, si jamais je ne l'accompagne pas, le documentaire, je suis pas sûre que des personnes qui soient pas du tout concernées par la thématique du handicap, de l'inclusion, de la scolarisation se posent les questions que j'ai voulu poser. Voilà.
Ouais, parce que c'est une première entrée en fait vers l'école comme lieu de stigmatisation, mais aussi lieu de collectivité, d'entraide. C'est ce qui se dégage, hein. L'équilibre entre les moments un peu de violence comme à la cantine. Enfin, chacune peut se faire sa propre opinion. Tout le monde a un libre arbitre et c'est aussi ce que tu prouves par le documentaire, je trouve.
Oui, je crois que j'avais pas envie d'asséner une opinion ou une parole, j'avais envie d'exprimer un point de vue et je crois que j'ai un tout petit peu réussi à le faire de par les retours que j'ai eus. Après, c'est vrai que je crois que moi j'aimerais bien que on se pose plein de questions sur le regard qu'on a sur les enfants handicapés, sur les processus de reconnaissance, sur cette norme, mais ça je crois que ça ne m'appartient pas en fait. Enfin, je crois que les gens, si le documentaire leur pose ces questions, bah, je crois que je suis contente parce que je me dis que peut-être on va avancer dans la lutte contre les discriminations envers les personnes handicapées. Après, si jamais ces personnes se posent pas de questions, bah, au moins ils ou elles auront découvert l'univers du dispositif Ulysse, découvert que ça existe. Et du coup, on en revient au tout premier objectif qu'avait Anne Fouché quand elle est venue vers moi pour le documentaire, c'est d'expliquer un peu ce que ça pouvait être que cette présence d'enfants handicapés à l'école et comment ils étaient accompagnés. Et voilà, donc en fait, pourquoi pas?
Non, mais explication du dispositif et ouverture du débat, je pense que la mission est remplie, la part du
Bon.
documentaire.
Ok, bon bah super.
Bon, merci, tu veux rajouter quelque chose?
Non, bah, je voulais vous remercier pour cette diffusion. Je suis très contente qu'il soit diffusé sur Canal Sud. Et voilà, et vive le documentaire.
Ouais, vive le documentaire et la radio. Nausicaa, merci. Poste à vivre aussi, qui va être diffusé, tu vas avoir des retours.
Oui, bah là, j'essaie de le diffuser en salle, ce qui n'est pas forcément évident pour du documentaire sonore, parce qu'il y a peu d'endroits qui sont faits pour ça. Mais du coup, là, je vais installer tout mon matériel et je retourne dans l'école pour le diffuser auprès de l'inspection académique et des parents, voilà, qui n'ont pas encore écouté le documentaire. Donc là, je pars dans une demi-heure, voilà. Et il sera diffusé aussi dans des radios associatives dans les mois qui arrivent, voilà, dans d'autres radios associatives.
Bon, super. Bon, en tout cas, une nouvelle fois, merci. Bon courage pour la présentation pour cet après-midi. Là,
Merci beaucoup.
t'as fait un petit échauffement, ça va, tu.
C'est super. C'est bon. Je vais juste répéter ce que j'ai dit et puis ça passera.
Vraiment merci et puis à très bientôt alors.
À très bientôt.
Salut, ouais, ciao.
Au revoir.
Merci, bye bye. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre seule.